Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Bruit de bottes en Corée du Nord, dans la péninsule coréenne, les évêques ne sont pas dupes des menaces de Pyongyang, mais en appellent au soutien du pape pour faire pression sur les puissances concernées. Première nomination du pape au sein de la curie, il a désigné le ministre général des franciscains au poste de secrétaire de la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Les chrétiens de Zanzibar pris pour cible depuis plusieurs mois par des musulmans. Derrière ces violences confessionnelles se cache en fait un conflit politique entre l'archipel et le continent. Le livre pour Dieu, cette semaine, Catherine Aubin interroge Dan Borin-Gaël, auteur de François d'Assise, L'insoumis de Dieu. Et comme tous les samedis, nous entendrons le commentaire de l'évangile de ce dimanche avec le père Pascal Montavi. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Les regards de la diplomatie mondiale sont tous tournés vers la Corée du Nord. L'escalade verbale entre Pyongyang, Séoul et Washington fait craindre l'éclatement d'un conflit. Les menaces de guerre semblent se préciser jour après jour sans que l'on sache vraiment si les dirigeants nord-coréens, qui sont habitués à agiter le chiffon rouge, sont sérieux ou s'ils bluffent. En tout cas, en Corée du Sud, les évêques catholiques s'inquiètent et en appellent au pape. Olivier Bonnel.
Nous remercions le pape François de ses prières et nous espérons qu'il continuera à être attentif à la péninsule coréenne en demandant à tous les responsables des nations en Corée, en Russie, aux États-Unis, en Chine, de travailler sérieusement en faveur de la paix en Corée. C'est par ces mots que l'évêque de Jeju, Mgr Peter Kang, également président de la conférence épiscopale de Corée, s'exprime. Il fait référence aux mots qu'a eu le pape dimanche dernier dans son message pascal sur la situation prévalant dans la péninsule. En tant que chrétiens, nous souhaitons et nous nous attendons à un sursaut de responsabilité de la part des responsables politiques et nous voulons encore regarder l'avenir avec confiance et espérance, ajoute-t-il. En attendant que la tension retombe, les évêques du pays du matin calme rappellent que cette année aura lieu le 60e anniversaire de l'armistice entre les deux Corées. L'occasion de faire un pas en avant en direction d'un véritable traité de paix, souligne Mgr Kang. C'est pourquoi l'église locale organise jusqu'en décembre une campagne de prière pour la réconciliation et demande la bénédiction du pape François.
Olivier Bonnel. Et la Corée du Nord, le pape pourrait justement bien en parler avec le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon doit en effet se rendre à Rome, mardi. À cette occasion, il rencontrera le pape au Vatican. Première rencontre entre les deux hommes. Agenda du pape toujours, lundi cette fois, c'est le président du Conseil des Églises évangéliques d'Allemagne qui se rendra au Vatican à l'occasion d'un séjour dans la capitale italienne. Nikolaus Schneider sera reçu par le pape François lundi donc. Lundi, c'est également le début de la visite ad limina des évêques italiens de Toscane, visite qui s'achèvera vendredi. Les évêques italiens auraient dû venir plus tôt, mais en raison de la renonciation de Benoît XVI et du conclave, leurs visites ad limina ont été reportées. On reste au Vatican, où le pape a nommé ce samedi le secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Il s'agit du père José Rodríguez Carvalho, ministre général de l'ordre franciscain des frères mineurs. Il a été élevé à cette occasion au siège titulaire de Belcastro avec la dignité d'archevêque. Le nouveau secrétaire est un Espagnol. Il est né en 1953. Il s'agit de la première nomination au sein de la curie du pape depuis son élection. Ce dimanche, le pape François prendra possession officiellement de sa cathédrale en tant qu'évêque de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran. Il y présidera la messe à 17h, heure locale. Sur le chemin qui le conduira du Vatican à la basilique, il s'arrêtera devant le palais du vicariat pour dévoiler une plaque portant l'inscription « Place du bienheureux Jean-Paul II ». La place Saint-Jean de Latran change donc de nom. Durant la messe aura lieu l'acte d'obéissance de représentants des diverses composantes de la communauté ecclésiale. Le cardinal vicaire, le vice-régent, un autre évêque auxiliaire, un curé, un vice-curé, un diacre, un religieux, une religieuse, une famille et deux jeunes. Lors de la messe de début de pontificat, l'acte d'obéissance n'avait été accompli que par les cardinaux. Les Argentins pansent leurs blessures et commencent à réparer les dégâts causés par des inondations meurtrières dans la ville de La Plata, non loin de Buenos Aires, la capitale. De fortes pluies se sont en effet abattues ces jours derniers sur toute la région. Face à cette situation, le pape, touché par les événements survenus dans sa terre natale, a fait un geste en accordant 50 000 dollars à l'archevêché de La Plata, Olivier Tosserie.
C'est la terre même du pape François qui a été meurtrie. Les pluies torrentielles qui ont frappé l'Argentine ont particulièrement touché l'archevêché de La Plata, situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de la capitale, Buenos Aires. Une terre située sur les rives du Rio de La Plata, l'énorme estuaire qui relie cette région à l'océan Atlantique. En tout, 51 personnes ont perdu la vie rien que dans cette ville. Le pape François a donc décidé de faire un geste pour marquer sa proximité spirituelle avec tous ceux qui souffrent et à tous ceux qui, généreusement, leur apportent aide et appui, comme l'a précisé le nonce apostolique Monseigneur Tchérik. Une somme de 50 000 dollars sera donc versée à l'archevêché de La Plata pour venir en aide aux victimes des inondations. 50 000 dollars provenant du Conseil Pontifical Coronum, une institution caritative créée en 1971 par Paul VI. Le pape a par ailleurs adressé un message de condoléances, se disant très peiné pour les victimes et les dégâts de son pays natal. Signe des liens forts qui unissent le nouveau souverain pontife et l'Argentine, à La Plata, justement, une partie d'une avenue a été baptisée Pape François, et ce, quelques jours après l'élection du cardinal Bergoglio, alors archevêque de la voisine Buenos Aires.
Depuis quelques mois, les chrétiens de Zanzibar, au large de la Tanzanie, sont victimes de violences régulières. En février, un prêtre était tué, à Noël, un autre était blessé. Des violences qui se propagent aussi sur le continent. En février, un pasteur évangélique était assassiné. Et au début du mois, la police aurait dû intervenir, d'après le Global Post, pour empêcher l'incendie d'une mosquée par environ 200 chrétiens en colère. Mais sous ces tensions interreligieuses se cache en fait un conflit politique. Zanzibar, à majorité musulmane, lutte pour son indépendance. Selon Nathalie Bernardi, professeure à l'université de Limoges, spécialiste de Zanzibar, ces violences sont même surprenantes. C'est pour elle avant tout un conflit politique qui oppose l'île au continent.
Comme l'île est majoritairement, très majoritairement musulmane, alors que le continent est beaucoup plus hétérogène avec, on va dire, en gros, 50% de musulmans, peut-être 40% de chrétiens et puis 10% d'animistes. Et donc, cette cristallisation politique, petit à petit, s'est traduite par une instrumentalisation du religieux. Et je crois qu'il faut le lire comme ça, c'est-à-dire que les violences qui ont été faites à l'égard des prêtres, c'est pas les prêtres qui étaient visés, c'est pas la religion catholique, mais c'est qu'en visant, en ciblant la religion catholique, on imagine aussi qu'on cible le continent. Et c'est ce qui permet aussi de comprendre aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là, parce que le parti toujours opprimé s'est radicalisé, parce qu'il y a une islamisation aussi un peu rampante de ce parti, qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour s'exprimer, que la violence et qui se développe effectivement depuis ces dernières années.
Le quotidien La Vie parle d'un fondamentalisme musulman qui se développe. Est-ce que le contraire peut arriver? L'instrumentalisation d'un conflit politique à des fins religieuses, est-ce que c'est un risque?
Je ne suis pas sûre qu'on en soit là. Je pense que pour l'instant, on instrumentalise le religieux pour arriver à l'objectif que partage une grande partie des Zanzibaris, c'est une autonomisation de l'île.
Est-ce que c'est vraiment partagé par tous les habitants de Zanzibar?
C'est là aussi. Je pense qu'il y a des grandes différences générationnelles. Les jeunes sont plutôt pour une autonomisation, une indépendance. Il y a une grosse différence entre les îles, parce qu'on parle de Zanzibar, mais c'est un archipel. L'île principale est plutôt attachée à son maintien, on va dire, dans l'union tanzanienne, alors que l'autre île de Pemba, qui n'a pas tout à fait la même histoire, elle est beaucoup plus pour l'indépendance. Donc il y a des tiraillements intergénérationnels entre les îles. Je pense quand même que la population est assez divisée sur la question.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. On reste en Afrique, où seule la frontière les sépare. Les habitants de Bukavu, en République démocratique du Congo, et ceux de Cyangugu, au Rwanda. Ils vivent au sud du lac Kivu, dans une zone agitée par la guerre depuis de nombreuses années. Pour promouvoir la paix, l'Église s'implique. La commission diocésaine Justice et Paix de Cyangugu, qui se trouve au Rwanda, a organisé à Bukavu, qui se trouve donc en RDC, une rencontre régionale des ouvriers apostoliques. Objectif, échanger sur les actions prioritaires à mener et les stratégies à mettre en œuvre en vue de la promotion de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, et en particulier dans le but de réduire le climat de suspicion entre la population frontalière du Rwanda et celle de RDC. Parmi les décisions prises, celle de pousser plus loin et d'étendre les rencontres conviviales entre les prêtres, les religieux, les jeunes et les femmes au niveau interdiocésain et interparoissial, ainsi que l'ouverture de jumelages entre les services des écoles et les établissements scolaires. Pourquoi François? Pourquoi le successeur de Benoît XVI a-t-il décidé d'adopter ce nom? Le pape l'a expliqué, c'est en mémoire de saint François d'Assise. Alors, quoi de plus logique aujourd'hui que de parler dans notre rubrique « Livre pour Dieu » de ce saint si populaire? Catherine Aubin a choisi en effet cette semaine l'ouvrage « L'insoumis de Dieu » écrit par Dan Boringaël, qui nous emmène dans sa découverte intense et fascinante du saint et frère universel. Dans ce premier volet, elle nous parle de la douceur d'aimer, qui est l'une des clés de lecture de son très bel ouvrage. Michel Hubot, franciscain, dit d'ailleurs de ce livre « Je recommande ce roman historique à tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant. Chacun y découvrira qu'il s'agit d'un voyage intérieur où il est convié avec saint François à un nouvel enfantement, à une secrète métamorphose. » En route donc pour le voyage.
Dan Boringaël, le titre de votre livre, François d'Assise, l'insoumis de Dieu. Quels sont les aspects de François qui vous ont tout de suite paru comme des phares sur lesquels il fallait construire votre roman?
Tout d'abord, ce que j'ai donné comme titre, l'insoumission, mais l'insoumission prise comme une qualité. Bon, il y a chez saint François une interrogation continuelle par rapport à lui-même, par rapport à sa société, sa famille, et puis après ses choix. Il est amené aussi à une prise de conscience, mais qui est tellement proche de la nôtre parce qu'elle est progressive. Il se trompe, c'est aussi un personnage qui m'a paru tellement passionné, tellement expansif et tellement exubérant également. Quand il reçoit le message dans l'église Saint-Damiano, il faut reconstruire ma maison parce qu'elle est toute en ruine. Bon, ben, il regarde le toit et si oui, ça c'est vrai, je dois réparer le bâtiment et puis il va chercher des sous dans la caisse de son père. Après, il y a cette prise de conscience de sa grande mission spirituelle et je trouve que c'est cette humanité-là. On a d'abord l'impression de faire une première lecture de la vie de François.
François cherche François.
Tout à fait. Au fond, il y a des strates, il y a des couches de prise de conscience. François aurait pu aussi être comme beaucoup de ses contemporains. Et puis, finalement, de cette personne, on va dire, tout à fait ordinaire par rapport à son temps, s'est détaché un autre François, le François spirituel. Comme si, d'une personne, on avait d'abord les valeurs matérielles, tout ce qui était facile et confortable, et puis, après, cette exigence qu'il a dû faire de lui-même, et il a dû renaître de lui-même sur le plan spirituel. Il a dû sortir de lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'est détaché de tout.
Comment avez-vous compris et perçu à ce point la personnalité de François?
Je crois que le fait qu'il soit universel, il permet à chacun d'avoir la même interrogation et la même expérience. Je ne dis pas que nous allons arriver au même résultat parce que lui est un personnage extraordinaire, mais tout le monde peut faire cette démarche en disant « Voilà, j'ai une vie, j'ai un destin, mais je dois exiger de moi-même de devenir plus moi-même ». Plus quelqu'un, et de pouvoir aussi sublimer mes possibilités, mes qualités, pour les offrir aux autres aussi, comme il l'a fait. Je pense que c'est important justement de pouvoir témoigner de ce travail personnel qu'on fait de soi, et cet accouchement qu'on fait de soi-même. On se donne une deuxième naissance, qui est une naissance spirituelle, et je pense que c'est ça qui m'a probablement envoûtée, si je peux dire, c'est de me dire, tiens, la vie, c'est une chose, tout est donné, mais je vais sortir à l'exemple de François. Je dois sortir. C'est cette obligation aussi qui arrive et qui arrive peut-être, qui arrivera peut-être aussi à certains lecteurs, puisque je l'ai ressenti. Il y a peut-être une chaîne qui se forme aussi, une chaîne de prise de conscience. J'ai reçu en héritage les sentiments et l'intimité de non seulement de François, mais du monde qu'il avait créé, de Chiara, de Bernard, je trouve, qui est éblouissant d'émotion. Pierre de Catane aussi, qui abandonne le savoir pour simplement aimer et réapprendre le langage des oiseaux. Je pense que ça, on ne peut jamais s'en séparer. Je remercierai François.
Le pape vient de prendre le nom de François. Comment avez-vous réagi?
Ah, j'ai sauté de joie parce que je me suis dit qu'une fois de plus, bon, ça fait 800 années que François dure et que François dure dans le cœur des gens, non seulement d'Assise, mais du monde et de l'univers entier. Et je me suis dit, voilà, notre pape va relancer encore, peut-être pendant plusieurs siècles, la vivance de François au sein de notre monde.
Catherine Aubin interrogeait Dan Boringaël, auteur en outre d'ouvrages anthropologiques urbaines, de livrets poétiques et d'un roman poétique, Son livre, François d'Assise, L'insoumis de Dieu, est publié aux éditions Fidélité. Et comme tous les samedis, c'est l'heure de retrouver le commentaire du père Pascal Montavy de l'évangile de ce dimanche, deuxième du temps de Pâques. Apparition du Christ, 8 jours après Pâques. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31.
En ce deuxième dimanche de Pâques, l'Évangile nous parle de la première apparition de Jésus ressuscité aux disciples. Les disciples sont enfermés, portes verrouillées, car ils ont peur des Juifs. Il est dit « Jésus vint et il était là, au milieu d'eux ». Après la résurrection, Jésus est présent au milieu de nous d'une manière nouvelle. Les portes fermées ne l'arrêtent pas. Jésus est là, au milieu de ses disciples. Il est avec eux quand ils ont peur, quand ils se cachent. Jésus va transformer cette peur en joie par une simple salutation. « La paix soit avec vous ». Nous avons là tout le sens de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une merveille qui concerne uniquement le Fils de Dieu, mais nous aussi, nous sommes appelés à être transformés par la résurrection du Christ. Nous participons à cette résurrection. Dans l'Épître aux Colossiens, il est dit « Enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Jésus est ressuscité d'entre les morts et nous aussi, nous vivons de cette résurrection. Ensuite, lorsque Jésus transforme une personne, il l'envoie pour témoigner au milieu des hommes. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cette mission d'évangélisation, le chrétien ne la remplit pas seul. Jésus continue en disant « Recevez l'Esprit Saint ». C'est par l'Esprit Saint que nous recevons la force d'être témoins de l'amour du Christ, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus poursuit en donnant un pouvoir aux apôtres. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En ce temps où nous célébrons la résurrection de Jésus, il est bon de nous rappeler qu'il est toujours possible d'aller voir un prêtre et de recevoir le sacrement de la réconciliation. Dans ce sacrement, le Seigneur efface toutes nos fautes et nous donne la vie éternelle. Enfin vient le fameux épisode de Thomas. Ce dernier était absent lors de la première apparition de Jésus. Il refuse de croire les paroles des autres apôtres. Il veut lui-même voir la marque des clous dans les mains de Jésus et mettre sa main dans le côté transpercé du Seigneur. Nous avons là une très belle description de la conversion. En premier lieu, il faut qu'il y ait une annonce. Il est nécessaire que les apôtres qui ont vu Jésus témoignent afin de susciter le désir chez Thomas. Mais pour qu'il y ait une véritable conversion, il faut que Thomas lui-même fasse l'expérience du Christ ressuscité. L'annonce du Christ doit donc ouvrir sur une rencontre personnelle avec Jésus. Pendant 8 jours, Thomas reste dans le doute. Nous pourrions nous demander pourquoi Jésus n'est pas apparu immédiatement à Thomas. Mais Jésus agit selon la volonté de son Père. Et nous sommes appelés à entrer dans le temps de Dieu, à croire que sa sagesse fait toute chose bonne au temps voulu. Il est intéressant de remarquer qu'il n'est pas dit que Thomas ait finalement mis sa main dans le côté du Christ. Car aussitôt, après la salutation de Jésus, Thomas s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». En ce dimanche, que cette exclamation de Thomas vienne sur nos propres lèvres. Qu'au cours de l'Eucharistie, nous nous exclamions, nous aussi, « Mon Seigneur et mon Dieu ».
C'était le commentaire de l'Évangile du Père Pascal Montavy à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est l'heure de se quitter. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.